Son Latino. Ici Radio Canada.
BBC Radio.
Ce soir, nous plongeons dans les coulisses d'un dossier prioritaire de la diplomatie française, les négociations pour la libération d'Ingrid Betancourt. Nous vous emmenons en Colombie et au Venezuela, car le président Hugo Chavez est étonnamment devenu une pièce centrale de l'échiquier diplomatique dans cette affaire. Comment en est-on arrivé là? La médiation de Chavez peut-elle aboutir rapidement? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Ensuite, nous vous ferons écouter deux maîtres, une légende du cinéma, l'Iranien Abbas Kiarostami, et une légende de la musique pop, l'Anglais Robert Wyatt. Nous irons également en Espagne pour évoquer un super site musical et le rocher de Gibraltar. Puis, dans l'Arctique, le Canada y affirme ses prétentions territoriales et le voilier scientifique Tara y entame sa deuxième année d'expérience sur la banquise. Notre petit tour du monde quotidien, c'est jusqu'à 19h. Bienvenido, bienvenue.
Jean-Marc Four. Et pourtant, il tourne.
Il y a des batailles qui sont supérieures à la vie elle-même. J'ai 40 ans, je suis sénateur en Colombie, j'ai passé 20 ans en France. Et j'ai vécu très confortablement dans votre démocratie. Et je trouve que c'est indécent. Et je crois que la Colombie a besoin que des gens soient prêts à mourir pour que nous puissions nous en sortir de cette corruption qui a complètement envahi le pays. Et donc, je crois qu'il faut assumer. Je crois que c'est notre devoir et je pense que c'est le défi de notre génération.
C'était en mars 2001, Ingrid Betancourt évoquant son engagement au micro de Stéphane Paoli sur France Inter. Moins d'un an plus tard, le 23 février 2002, la franco-colombienne, devenue candidate des Verts à l'élection présidentielle en Colombie, était enlevée par les rebelles des FARC. 5 ans, 7 mois, 2 semaines plus tard, elle est toujours entre leurs mains. La guérilla des FARC a débuté dans les années 60 en Colombie. Ce pays de 47 millions d'habitants, grand comme 2 fois la France, est situé au nord de l'Amérique du Sud. Depuis, les forces armées révolutionnaires de Colombie, qui compteraient environ 15 000 hommes, ont enlevé des milliers de personnes. Et même si elles ont subi plusieurs revers militaires, elles contrôlent encore une partie du pays, au fin fond de la forêt amazonienne. Fin juin, une rumeur a couru sur une éventuelle libération d'Ingrid Betancourt, espoir déçu. Mais depuis quelques jours, l'espoir renaît avec l'entrée en jeu d'un nouvel acteur, le président du Venezuela voisin Hugo Chavez, personnage tonitruant et anti-américain. Appuyé par la France, ce qui en surprend plus d'un, Chavez s'apprêterait à rencontrer une délégation des FARC pour faire libérer les otages, 45 otages au total. Initialement prévue aujourd'hui, cette rencontre a été reportée, mais elle pourrait se tenir très prochainement. Direction donc d'abord le Venezuela. Angèle Savino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Caracas. Racontez-nous comment Chavez, en l'espace de quelques semaines, a pris un rôle central dans cette négociation.
Alors tout a commencé lors d'un de ces fameux programmes dominicales en août dernier. Chavez propose de jouer le rôle de médiateur dans l'échange humanitaire. Le président Uribe accepte de recevoir son homologue vénézuélien dans sa résidence secondaire en Colombie. C'était le 31 août. L'arrivée monumentale de Chavez est applaudie et en l'espace de 15 jours, il devient une figure d'espoir pour la paix. Ce premier entretien est plutôt positif. Les deux présidents se mettent d'accord sur un point. Chavez pourra recevoir un responsable des FARC à Caracas, rencontre initialement prévue ce 8 octobre. Pendant tout le mois de septembre, Hugo Chavez va faire la navette entre les FARC et le chef d'État colombien. Mais les choses se compliquent lorsqu'Hugo Chavez sort du cadre des discussions diplomatiques. Le président vénézuélien insiste à plusieurs reprises. Il veut rencontrer le numéro 1 des FARC, Manuel Marulanda. Le 10 septembre dernier, le gouvernement colombien avait déjà fait savoir, après une première demande de Chavez, qu'il ne considérait pas réaliste cette initiative. Mais le 15, le refus est officiel. Uribe n'autorisera pas Chavez à aller dans la jungle rencontrer le chef des FARC. Réplique immédiate de Chavez. Mardi 18 septembre, Chavez montre une vidéo des FARC à la télévision qui propose la date du 8 octobre pour une rencontre entre Chavez et la guérilla. Entre-temps, donc, la rencontre a été reportée. Chavez, lui, reste sur sa position. Il a de nouveau appelé le président colombien à ne pas s'opposer à sa rencontre avec la guérilla hier à la télévision. On l'écoute.
Je remercie Alvaro Uribe de m'appuyer. Il a considéré que mon soutien peut être utile. Je crois que le gouvernement colombien doit faciliter ma rencontre avec les FARC et non y mettre d'obstacles. De toute façon, nous avons prévu de parler du sujet avec le président Uribe lorsque nous allons nous rencontrer à la frontière.
Le président vénézuélien Hugo Chavez, traduction assurée par Jacques Sigal. Également en ligne avec nous, Zoé Berry à Bogota, la capitale de la Colombie. Bonsoir Zoé.
Bonsoir.
Une femme joue également un rôle important dans ce dossier, c'est la médiatrice colombienne Piedad Córdoba. C'est elle qui a contacté Chavez.
Oui, alors Piedad Córdoba, c'est une sénatrice de l'opposition. Elle s'était rendue cet été au Venezuela et au cours d'une des émissions hebdomadaires, Angèle l'a dit, du président Chavez, Allo Presidente, elle l'avait interpellée sur le dossier des otages, lui demandant de l'aider à résoudre ce problème. Alors Piedad Córdoba a ensuite été désignée officiellement médiatrice par la présidence colombienne, mais c'était pas vraiment de gaieté de cœur, hein. C'est l'une des opposantes les plus dures du président Alvaro Uribe. Et sa nomination en a surpris plus d'un. Alors qu'est-ce qui la motive? Quand on le lui demande, elle explique qu'elle avait une dette envers Ingrid Betancourt, d'abord parce qu'elle se connaissait. Il y a 10 ans, Ingrid lui avait demandé de l'aider à contacter la guérilla. Et puis en 1999, alors que Piedad Córdoba était elle-même otage des paramilitaires d'extrême droite, Ingrid était intervenue pour la faire libérer. Du coup, Piedad remue maintenant ciel et terre pour débloquer le dossier des otages. Et c'est elle qui avait obtenu l'aval de la guérilla pour une rencontre au Venezuela.
Il reste, on l'a dit, que la rencontre entre Chavez et les FARC prévue initialement aujourd'hui a été annulée. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons, officiellement, et c'est d'ailleurs ce que pense également Hugo Chavez, parce que le président colombien avait annoncé ces derniers jours qu'il ne donnerait pas de laissez-passer aux représentants de la guérilla qui devaient se rendre au Venezuela, donc problème de sécurité. Et puis aussi parce que selon Piedad Córdoba, il restait beaucoup de blocages du gouvernement colombien, notamment sur un point, Bogota refuserait, en cas d'échange de prisonniers, de voir revenir en Colombie deux commandants des FARC emprisonnés aux États-Unis actuellement, Simon Trinidad et Sonia, comme l'exige le groupe armé. Et puis tout bêtement, les FARC n'étaient peut-être pas prêtes à envoyer leurs représentants pour des raisons d'organisation, vu le délai très court qui leur a été laissé avant la réunion prévue donc ce lundi au départ.
Face à l'irruption dans la négociation du président vénézuélien, les familles des otages évidemment s'interrogent. Est-ce réellement une bonne nouvelle? Lionel Thompson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au service étranger de France Inter. Vous avez joint plusieurs proches des otages, à commencer par la sœur d'Ingrid Betancourt, Astrid. Elle attend beaucoup de cette médiation.
Je dois dire que l'arrivée sur la scène des démarches du président Chavez est extraordinaire et nous ouvre une véritable fenêtre de lumière parce qu'il a un double avantage. D'un côté, il est perçu par la guérilla comme étant un homme du peuple. Il est digne pour eux de confiance. Et bien sûr, il pourrait être pour eux aussi une porte d'ouverture politique plus tard. Et puis d'un autre côté, vis-à-vis du président Uribe, le président Chavez est un homme qui a acquis en peu de temps une grande influence en Amérique latine. Et il y a des intérêts économiques très importants entre la Colombie et le Venezuela du fait d'être des pays frontaliers. Donc je crois que toute cette confluence d'éléments qui font que Chavez a un discours crédible pour la guérilla et qu'il peut opérer une pression d'une certaine vigueur vis-à-vis du président Uribe.
Autre réaction, Lionel Thompson, celle de Gustavo Moncayo. C'est qui Gustavo Moncayo d'abord?
Alors Gustavo Moncayo, c'est le père d'un soldat colombien qui est détenu par les FARC depuis décembre 97, près de 10 ans. Et le 17 juin dernier, ce professeur a entrepris un périple fou. Il est parti de chez lui à pied, un village du sud de la Colombie, et il a parcouru près de 1000 kilomètres pour rejoindre la capitale Bogota. Ça a créé un véritable électrochoc dans la société colombienne qui s'est mobilisée avec lui pour que des négociations s'engagent sur les otages. Il était ces derniers jours en France et nous avons pu l'interroger lors de son étape à Belfort. Il voit d'un bon œil lui aussi l'intervention de Chavez.
C'est très fondamental, parce que de toute manière, nous n'avions pas l'interlocuteur.
C'est très important pour nous, car jusqu'à présent, nous n'avions pas tous les interlocuteurs. Nous ne pouvions que communiquer avec le gouvernement. Donc nous pourrons avoir aussi connaissance des positions et des avancées des demandes des FARC.
Et qu'est-ce qu'on pouvait obtenir?
Tout cela, aussi grâce à l'intervention de Lula, de Coréa, et également grâce à l'aide donnée par des pays comme la Suisse, la France et l'Espagne qui ont participé aux négociations pour cet accord de paix.
Est-ce que vous pensez qu'avec cette médiation et celle d'autres pays, il y a des opportunités nouvelles? Vous êtes optimiste?
Pues, yo tengo mucha esperanza en que todo
J'espère beaucoup qu'une solution pacifique va être trouvée. Il faut faire en sorte que les otages s'en sortent vivants par un accord négocié entre le président et les
FARC.
Je suis triste de savoir qu'actuellement, des personnes sont en train de mourir. Ce sont des paysans, des gens humbles. Ça me fait beaucoup souffrir. Je veux que la violence cesse et que la paix revienne en Colombie.
Une traduction effectuée par Étienne Monin. Il évoquait hein, Gustavo Moncayo, Lula et Correa. Il s'agit bien sûr des présidents du Brésil et de l'Équateur voisin. Zoé Berry, vous êtes toujours en ligne avec nous de Bogota. Comment réagissent les autres familles d'otages en Colombie?
Eh bien, elles sont partagées. Alors évidemment, elles espèrent qu'Hugo Chavez, président de gauche, saura convaincre la guérilla marxiste et faire jouer ses influences pour faire céder Uribe. Certaines le voient comme un sauveur, hein, parce que pour la première fois, lorsqu'elles ont été reçues par Hugo Chavez, elles ont été écoutées. Mais toutes ces familles ont connu aussi ces dernières années d'amères déceptions, donc elles restent prudentes. Le mari d'Ingrid Betancourt nous disait la semaine dernière à Bogota qu'il avait peur qu'il y ait finalement beaucoup de bruit pour rien et que dans quelques mois, tout ce beau monde ne dise « nous n'avons pas réussi, c'était trop dur ». En mai, Piedad Córdoba avait quand même annoncé une libération sous 15 jours d'Ingrid Betancourt et rien n'est arrivé. Ici, personne n'oublie que les otages dépendent du président colombien et de la guérilla en Colombie qui jusqu'ici n'ont obéi ni à Paris ni à Caracas.
Oui, ça c'est la grande incertitude, hein, l'attitude des FARC.
Oui, on ne sait pas comment elles vont réagir face à tout ça. Deux choses pourraient quand même les faire céder. Hein. La vitrine politique offerte par Hugo Chavez. S'il reçoit effectivement des guérilleros, ce serait la première fois dans l'histoire colombienne que la guérilla serait reçue officiellement par un chef d'État étranger. Elle pourrait donc en profiter pour montrer un visage plus humain. Et puis, il faut compter aussi sur leur affaiblissement militaire. Cette année, la guérilla a perdu 13 de sa soixantaine d'otages échangeables. Les récits des évadés parlent d'une guérilla aux abois. C'est peut-être donc le meilleur moment pour trouver une sortie négociée au problème des otages.
Zoé Berry, en direct de Bogota. Angèle Savino, vous êtes toujours également avec nous, en direct de Caracas, la capitale du Venezuela. On est interpellé aussi par l'attitude de Hugo Chavez. Que cherche-t-il en proposant ses services et a fortiori de façon aussi ostensible?
Oui, Chavez essaie clairement de donner un coup de brosse à son image internationale, hein, puisque depuis quelques mois, elle n'est plus vraiment bonne. Donc, cette médiation n'est pas vue par tout le monde comme un simple geste humanitaire. Le président vénézuélien en a fait d'ailleurs un enjeu historique pour l'avenir de l'Amérique latine. Le lieu et la date de rencontre ne sont pas choisis au hasard. Il rencontrera le président Uribe à la frontière ce 12 octobre. Donc, le 12 octobre, c'est un jour férié et le symbole de la résistance indigène à la conquête espagnole. Mais au-delà de la situation des otages, Chavez a peut-être aussi tout intérêt à ce que les FARC perdent un peu de poids, car tant qu'elles seront en position de force, hein, le très droitier Uribe pourra compter sur un fort soutien populaire et la gauche sera quasiment assurée de ne pas arriver au pouvoir en Colombie. Donc Chavez est loin d'être un diplomate comme les autres, il joue constamment la note de la provocation. À l'écran, il semble accepter le rôle des autres acteurs du dossier, même si tous les opposent politiquement. Milos Alcalay, ancien ambassadeur du Venezuela à l'ONU, critique cependant l'omniprésence médiatique du président vénézuélien. On l'écoute.
Si ça entre dans ce qu'on a appelé la diplomatie spectacle, la position comme protagoniste, l'action d'un super Chavez qui va au centre de la jungle, je ne pense pas, peut-être je me trompe, que c'est la voie de la solution. Il doit faire la navette et dire, bon écoutez, mes amis de la FARC, vous savez combien je suis identifié, vous êtes bolivarienne, mais on peut se trouver, vous sortez discrètement, moi je vous donne garantie dans les frontières. Alors, et la FARC dirait, non, nous voulons des autres conditions. Alors il fera la navette, un facilitateur n'est pas protagoniste. Et je suis sûr que s'il maintient en position plus discrète, il va aboutir. Pourquoi? Uribe a beaucoup de rapports économiques avec le Venezuela, beaucoup d'intérêt de pas avoir des conflits. Et la FARC, pas seulement veut avoir un bon rapport, mais elle admire le rôle de Chavez. Donc, s'il actue discrètement et n'impose pas en condition à la FARC, et n'impose pas en condition au gouvernement d'Uribe, il pourrait aboutir avec succès.
Milos Alcalay, ancien représentant d'Hugo Chavez à l'ONU, avec Angèle Savino en direct de Caracas. Lionel Thompson, je me tourne à nouveau vers vous pour conclure. Pourquoi la diplomatie française, elle, joue-t-elle la carte de Chavez, là aussi de façon ostensible, puisque Chavez sera reçu à Paris le mois prochain pour discuter du dossier, et alors que c'est tout de même un dirigeant controversé?
Eh bien, c'est tout simplement sans doute que la France n'a pas de meilleure solution pour l'instant et qu'elle doit saisir un peu toutes les opportunités qui se présentent. Il y a des émissaires français, hein, qui depuis français et suisses d'ailleurs, qui depuis 3 ans discutent dans la jungle avec les FARC, avec le gouvernement colombien. C'est un travail utile, mais sans résultat tangible jusque-là. Or, on sait que Nicolas Sarkozy, lui, il est pressé. Il a fait de la libération d'Ingrid Betancourt un objectif qu'il a clamé haut et fort, un peu à la manière dont il a procédé avec les infirmières bulgares. Quand il est arrivé à l'Élysée au printemps dernier, il a multiplié les contacts sur ce dossier dans son style très volontariste. Seulement, il a dû se rendre rapidement compte que cette affaire était plus compliquée que celle des infirmières bulgares et qu'elle allait prendre encore du temps. Alors même si Chavez, ce n'est pas forcément politiquement sa tasse de thé, s'il peut t'aider, s'il peut donner un coup de pouce fort de ses bonnes relations avec les FARC, eh bien, va pour Chavez, semble considérer Nicolas Sarkozy. Avant cela, le chef de l'État français a aussi soigné ses relations avec le président colombien, Alvaro Uribe. Un président colombien qui semble toujours naviguer entre deux positions, la négociation avec les FARC ou l'intervention armée. Cette dernière option dont ne veut pas la France concernant Ingrid Betancourt, puisqu'elle comporterait évidemment un gros risque de se terminer en bain de sang fatal pour éventuellement Ingrid Betancourt et les otages.
Merci Lionel Thompson. Les dessous de l'affaire Betancourt, vous pouvez bien sûr réécouter ce dossier dès la fin de l'émission comme tous les jours sur notre site internet. Et pourtant elle tourne sur franceinter.com et puis un autre site à vous signaler, c'est le site évidemment pour la libération des otages, c'est betancourt.info. Il est 11h32, 7h de moins à Bogota.